She was no longer a user. Don't think she realized we knew that. Not one to make a fuss. Why this and not something else? Wasn't it obvious? She made such a hash of it. Can't help but notice. A near absence of tenderness. And who wants to live like that? And friends turn their backs on her. She no longer a user. And she wanted to stay home with a box full of postcards and no place to send them. Live like Emily Dickinson, without so much as a kiss, or the comfort of strangers, withdrawing into herself. But why this and not something else?
Thank you. David Sylvian avec un extrait de Manafon et son Emily Dickinson à lui. David Sylvian qui était ici accompagné de John Tilbury et Devon Parker notamment. Pour parler d'Emily Dickinson, d'une autre Emily Dickinson, ça ne va pas être facile. Nous avons en studio Emmanuel Requette ce matin. Emmanuel Requette qui nous vient avec un ouvrage de...
De Suzanne Howe qui s'appelle... Mon Emily Dickinson, justement.
Donc, c'est pas la vôtre, hein.
Non, surtout pas. C'est la sienne. On parlera justement de ce que ça veut dire que dire mon Emily Dickinson. C'est quoi s'approprier Emily Dickinson aussi. Ceci dit, la musique prouve qu'on peut se l'approprier de bien belles manières et suivant des registres très, très différents. C'était magnifique. Alors Suzanne Howe, donc dont c'est la première traduction d'une œuvre complète en français, Mon Emily Dickinson. Il y avait déjà des petits textes qui était paru de Suzanne Howe chez un petit éditeur de poésie d'avant-garde, on va dire, qui fait beaucoup de traductions américaines, qui s'appelle Théâtre Typographique. Mais Suzanne Howe, c'est vraiment un personnage clé, c'est un personnage majeur des lettres américaines actuelles, c'est un personnage majeur de la littérature mondiale, tout simplement. Alors, je ne suis pas fan nécessairement de l'élément biographique, ni du Gotha, etc. Je pense cependant que détailler un petit peu l'horizon familial de Suzanne Howe peut être intéressant pour éclairer un peu son œuvre. Elle est née en 1937 d'une mère irlandaise qui était réalisatrice, enfin qui était plutôt metteur en scène de théâtre et également actrice, donc irlandaise, mariée à un prof de droit. Enfin, son père était prof de droit à la prestigieuse université de Harvard. Elle avait une sœur, elle a toujours une sœur qui s'appelle Fanny Howe, qui est peut-être un peu plus connue dans le milieu de la poésie. Il y a pas mal de livres qui sont traduits d'elle, donc c'est une grande poétesse américaine également. Elle fut mariée à un peintre qui s'appelle Kate Mann, qui est un grand nom de l'art plastique américain, puis en deuxième noce à un grand sculpteur de l'art américain, Von Schlegel, et enfin en troisième noce, oui je sais, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais c'est comme ça, un philosophe assez important de l'université de Buffalo. Elle a deux enfants, l'un qui s'appelle Kate Mann, du nom de son premier époux, est peintre, un peintre aussi assez important aux États-Unis, et le deuxième fils, qui s'appelle Mark Von Schlegel, est lui-même écrivain plutôt de littérature, à la fois en anglais, mais aussi en allemand, de littérature de science-fiction. Donc un univers qui est entièrement fondée finalement sur la culture. Et donc, on comprend en la lisant qu'elle a baigné pendant très très longtemps dans un univers qui est fait, ben oui, qui est fait de culture, qui est fait de littérature, qui est fait de musique, qui est fait de peinture, qui est fait d'art plastique en tout genre.
Et donc là, elle s'attaque à un monument de la littérature américaine et même de la poésie mondiale.
Alors, elle s'y attaque par des versants qui sont extrêmement intéressants et qui sont ceux par lesquels on n'attendait pas à ce qu'on escalade l'œuvre de Emily Dickinson. Pour replacer justement cette analyse et cette escalade justement dans un contexte plus général, il faut dire que Suzanne Howe fait partie de ce que l'on appelle le language poetry aux États-Unis, qui est un mouvement poétique très important, qui déborde même du cadre strictement poétique, on comprendra aisément après, et qui est représenté par des noms qui, aux États-Unis, sont très importants, qui commencent à être un peu connus, notamment grâce à la musique contemporaine, parce qu'ils font pas mal de choses aussi, des livrets d'opéra, etc., comme Charles Bernstein, par exemple, des gens comme Ron Silliman, des gens comme Annie Jian, etc. Donc, ce sont des noms qui commencent à être un peu plus connus, mais qui sont très, très importants aux États-Unis même, et qui sont, je veux dire, dans la tradition d'une littérature ou d'un art moderniste, donc dans la tradition de Gertrude Stein, par exemple, ou de Carlos Williams, qu'on commence à connaître un peu plus grâce notamment au film de Jarmusch qui vient de sortir, et c'est très très bien comme ça, mais aussi dans d'autres noms comme Zukovsky, comme Olson, etc. Donc elle se situe dans une tradition qui se situe après le modernisme, et donc qu'on peut définir comme post-modernisme. Alors, pour donner peut-être trois caractéristiques sous lesquelles on rassemble ce type d'œuvre, qui valent ce qu'elles valent, hein, parce qu'il y a tellement de choses différentes qu'on peut en dire, et suivant les personnes qui s'y attachent même, les poètes qui s'y attachent, ça peut prendre des teintes extrêmement différentes. Mais il y a tout d'abord une très grande importance accordée au lecteur lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on pense au lecteur de manière commerciale, de manière marketing, à lui faciliter la tâche, c'est peut-être parfois même l'inverse, justement. Par contre, ce que l'on essaye de faire de manière assez systématique, c'est inclure l'acte de lecture dans le procédé d'écriture. L'acte de lecture est pensé dans l'acte d'écriture lui-même. Alors ça peut se présenté suivant des formes assez simples comme la mise en abîme, on présente un lecteur qui lit une œuvre, etc. Mais ça peut se faire de manière bien plus diverse et bien plus fine que ça. Mais ça, c'est une caractéristique assez propre de ce language poetry. Un autre élément qui est très important, qui est peut-être essentiel et qui peut paraître presque bateau quand on le dit, c'est la grande importance accordée au langage. Alors ça peut sembler un peu bizarre quand on parle de poésie. S'il y a bien un secteur dans lequel on s'intéresse au langage, c'est la poésie.
On espère en tout cas.
On l'espère, mais en lisant beaucoup de poésie, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement toujours le cas, malheureusement. Mais c'est plutôt le langage conçu comme lui-même créateur, non pas de sens, mais créateur de réel, c'est-à-dire comme une forme de verbe, ça on voit presque au religieux, comme une sorte de verbe, de logos créateur. C'est-à-dire que c'est la phrase, c'est le mot, c'est son articulation, c'est leur articulation entre elles, c'est parfois quelque chose qui est un peu de l'ordre du merveilleux, de l'ordre du magique, de l'ordre du miraculeux, qui va créer du réel. C'est le mot qui crée parfois de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très Wittgensteinien, mais très américain, et qui est très, très présent dans la language poetry. Un autre élément qui est très important, qui là est peut-être un peu plus sexy, justement, c'est une grande variété de matériaux qu'ils utilisent, à la fois dans les registres du langage, mais également dans les registres littéraires, dans les registres scripturaire, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'essai, à la fois de l'histoire, de la poésie stricte, du versifié, du non-versifié, du prosatique, etc. Beaucoup donc de registres du langage différents, mais aussi beaucoup de registres culturels différents. On va s'intéresser à l'art antique, on va s'intéresser à l'art du Moyen-Âge, on va s'intéresser à des textes du XVIIe, mais on va s'intéresser aussi à la pop culture, au rap, au hip-hop, etc. Et donc à des choses extrêmement diverses. Donc alors voilà, trois marqueurs, je dirais, de la language poetry, dans laquelle s'insère Suzanne Ho, mais qu'elle va revisiter d'une manière absolument, absolument remarquable.
Justement, est-ce que dans son monde, Emily Dickinson, on retrouve ces trois marqueurs-là ?
Ah, clairement, totalement. Alors, mon Emily Dickinson, je dirais, souffre peut-être de son titre d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a Emily Dickinson dedans. Alors, Emily Dickinson, on la connaît, je pense, au moins de nom, même si on n'est pas nécessairement un gros lecteur de poésie, c'est un nom qui dit quelque chose, et d'ailleurs vient de paraître enfin, oserais-je dire, en français, une traduction intégrale des poésies complètes de Emily Dickinson chez Flammarion, qui d'ailleurs a été pendant tout un temps, pendant près de 3 ou 4 semaines, indisponible parce qu'il a eu beaucoup de succès et donc qu'il a été, il a dû être réimprimé.
Signe qu'il était attendu.
Il était attendu et il est vraiment bon. C'est vraiment un livre extraordinaire en édition bilingue qui est traduit par Françoise Delphi. Voilà, donc c'est quand même un nom qui est connu, qui dit quelque chose. Cependant, un livre dès l'entame, on nous dit qu'il va s'intéresser à Emily Dickinson, on s'attend à trouver un essai sur Emily Dickinson. Or, il faut concevoir effectivement que ce livre de Suzanne Ho est bien un essai sur Emily Dickinson, mais il est très très loin de n'être que cela. Donc c'est un peu compliqué. Amener des gens à faire lire un livre qui se présente au premier abord comme un essai sur un poète qu'ils ne connaissent pas nécessairement forcément bien, on peut se dire oui, c'est de l'exégèse, c'est un livre de critique littéraire pure et simple, c'est pas évident.
Mais en fait, il semble qu'en titrant de la sorte, elle ait voulu se débarrasser déjà d'une critique malsaine, probablement, qui aurait dit « Mais attends, ça, c'est pas Emily Dickinson que
oui,
tu nous décris. »
Alors, effectivement, je pense que ce que je disais de cette appropriation première du livre par le lecteur, de cette première idée qu'il va se faire en voyant le titre, elle est double. Il y a le mot, et il y a le Emily Dickinson. Mais il y a d'abord le Emily Dickinson, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas. Et c'est vrai que le livre est une exégèse de l'œuvre d'Emily Dickinson. C'est ça. À certains égards, extrêmement classique. C'est-à-dire qu'elle va utiliser un poème, qui est un poème extrêmement important, qu'on appelle communément « Mon fusil chargé », et qu'elle va détailler par le menu, un peu comme on pourrait faire un exercice d'analyse poétique assez classique. Mais elle va aussi utiliser plein de choses différentes. Elle va utiliser des lectures qu'avait elle-même Emily Dickinson, des lectures de Shakespeare, mais des lectures également de contemporains de son temps, des lectures de textes religieux, des textes puritains, des textes de Browning, par exemple, qu'elle lisait beaucoup, de John Donne, également de sa correspondance. Elle avait une correspondance assez importante, etc. Ce qui va déjà rompre avec l'image que l'on avait souvent d'une Emily Dickinson recluse en son coin, d'une espèce, ouais, pour le dire clairement, une espèce de demi-folle quoi, qui était dans son château et qui écrivait des poèmes que personne ne comprend. Donc, que personne ne comprenait. Donc, une espèce d'image du poète romantique, etc., qu'on a fait sur elle, qui est assez fausse, il faut bien le dire. Mais elle va aussi utiliser donc, à la fois une grande diversité des sources auxquelles s'abreuvait Emily Dickinson, mais aussi une grande diversité des sources d'analyse. Donc, elle va utiliser, par exemple, Hélène Cixous pour analyser l'œuvre d'Emily Dickinson. Elle va utiliser la psychanalyse, par exemple. Elle va utiliser tous les tenants et aboutissants d'une philosophie très, très largement pensée. Elle va aussi utiliser des textes puritains, elle va utiliser des textes féministes. Donc, elle va utiliser à peu près tout ce qui est à sa disposition pour analyser l'œuvre d'Emily Dickinson. Et donc, ce Emily Dickinson-là, ce livre sur Emily Dickinson, s'est révélé dès sa parution en 1985 comme un des textes décisifs qui, effectivement, faisait varier considérablement la lecture que l'on avait eue jusque-là d'une Emily Dickinson qui était devenue, oui, une image un peu d'une demi-folle romantique, extraordinaire poète, certes, mais presque malgré elle. Et donc, elle arrive à ça. Mais, effectivement, ça, c'est le côté Emily Dickinson. Il y a le côté mon Emily Dickinson. Et c'est ça, je pense, qui fait de Suzanne Ho une des toutes grandes artistes actuellement. C'est ce mon, ce qu'il y a dans ce mon. Parce que quand elle dit « my » Emily Dickinson, elle insiste effectivement que cette analyse qu'elle fait de l'œuvre d'Emily Dickinson, c'est la sienne. En toute subjectivité, en toute humilité, elle dit « c'est mon Emily Dickinson », mais aussi avec tout le bagage, tout le savoir, toute la connaissance qu'elle a pu amagasiner pendant de très longues recherches sur cette œuvre. C'est la sienne. Mais aussi, en disant ce mon, à la fois donc elle marque la subjectivation de ce qu'on va trouver dans ce livre, mais aussi elle marque son appropriation. Elle s'approprie Emily Dickinson, c'est mon Emily Dickinson. Et grâce à ce livre, qui est son Emily Dickinson, elle fait bien autre chose que raconter Emily Dickinson. Le mon est tout aussi important que ce qu'il suit. Et ce qu'elle fait, tout simplement, eh bien, c'est faire une œuvre à la fois qui est un essai sur Emily Dickinson, mais aussi une mise en œuvre de ce qu'elle va dire. Ce qui l'intéresse chez Emily Dickinson, c'est que finalement, son langage, sa poésie, est un marqueur entre autres de domination, par exemple. Emily Dickinson puise à gros bouillon, on va dire à gros traits, dans une littérature, par exemple, des puritains du XVIIe siècle. Et ceux-ci sont le marqueur, par exemple, d'une domination féminine. Un simple exemple, il y en a, ils sont à foison dans le livre. Pas mal de textes du XVIIe siècle relataient des expériences, soit mystiques de femmes américaines, soit de femmes américaines qui avaient été enlevées par des Indiens. Mais tous les textes qui relatent ces expériences féminines ont été écrits par des hommes. Donc on utilise un langage masculin pour parler de femmes ou véhiculé par des hommes pour parler de femmes. La poésie d'Emily Dickinson est également marquée par cela. Et le travail, justement, d'une analyse sur le texte d'Emily Dickinson, un travail important, c'est de, justement, dégager ces marqueurs-là, de montrer à quel point le langage peut être porteur de codes qu'on ne connaît pas, de codes qu'on n'apprécie pas, si on n'y va pas plus profondément. Et ça, c'est un très, 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 très grand travail que fait justement Suzanne Ho. Et ce qu'elle fait, elle le fait, mais de manière justement très peu classique. C'est-à-dire qu'elle va mêler l'analyse textuelle classique d'un poème, fameux poème Mon fusil chargé, par exemple, qui est analysé mais d'une manière ultra précise, presque scolairement, on va dire. Mais elle va mêler à ça aussi, par moments, des simples élément historique. Elle va nous parler, par exemple, d'une de ces fameuses femmes capturées par des Indiens. Et on se demande, par exemple, mais qu'est-ce que ça fait dans ce texte? Et les liens sont créés, comme je le disais dans mon introduction sur la language poetry, les liens sont faits par le lecteur lui-même. Et donc, ce mon Emily Dickinson devient petit à petit le vôtre aussi. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'à partir d'un matériau qui est disponible dans toutes les bibliothèques. Alors, ça demande un gros travail. Le travail a été colossal pour aboutir à ce résultat-là. Mais à partir d'un matériau ancien, à partir d'un matériau finalement qui est là, qui n'est pas inventé, on peut créer vraiment quelque chose de totalement neuf, de totalement nouveau et qui éclaire de manière tout à fait neuve le monde qui nous entoure.
Mais diriez-vous que c'est un livre d'érudites ?
Alors, il y a de l'érudition, évidemment, mais l'érudition n'est jamais une fin en soi ici, comme on peut malheureusement souvent le retrouver dans des essais ou dans des exégèses. C'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas... Et c'est tout le problème, justement, pour le dire crûment, commercial de ce genre de livre. C'est-à-dire que ça... c'est très difficile à faire de faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas un livre sur Emily Dickinson. C'est ça, oui, mais ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est vraiment de faire de la poésie en acte à partir d'un matériau qui se trouve être de la poésie.
C'est une œuvre poétique en soi.
C'est une œuvre poétique en soi. Et c'est une œuvre poétique qui est extrêmement rare, extrêmement étrange aussi, parce que ce n'est pas une poésie classique. C'est une poésie... Le mot est le centre de la poésie, mais aussi c'est dans le nom dit des mots, dans ce qui se trouve au cours de l'histoire par ne plus être signifié par des mots et que la poésie a pour charge, a pour devoir de retrouver, à les retrouver dans les intersections, dans les mots, dans les noms dits finalement, ce qu'on y a logé et ce qu'on y loge sans même presque plus s'en rendre compte.
Vous êtes venu avec deux livres, Emmanuel. Lequel des deux allez-vous nous lire ?
Ah ça... Alors, je suis venu donc avec le Suzanne Oh, mon Emily Dickinson, et je suis venu aussi avec les poésies complètes d'Emily Dickinson. Et je voulais vous lire le poème sur lequel se base justement souvent Suzanne Oh pour parler d'Emily Dickinson. Et je me suis dit, je vais faire un peu quelque chose de paradoxal. Je vais vous lire la traduction Flammarion, puisqu'elle a tous les textes qui sont utilisés dans le livre de Suzanne Oh, qui est traduit par Antoine Cazet, très bien d'ailleurs, ont été retraduits pour l'occasion. Ah ben, je me dis, autant vous lire l'édition Flammarion. Voilà, c'est assez court comme poème. Ma vie était un fusil chargé, posé dans un coin, jusqu'au jour où le propriétaire passa, m'identifia et m'emporta. Et maintenant, nous parcourons les bois royaux. Et maintenant, nous chassons la biche. Et chaque fois que je parle pour lui, les montagnes immédiatement répondent. Et quand je souris, une lumière si cordiale luit sur la vallée. Que c'est comme si le visage du Vésuve laissait sourdre son plaisir. Et quand la nuit, à la fin de notre bonne journée, je garde la tête de mon maître, c'est mieux que de partager un profond oreiller de duvet. Pour son ennemi, je suis un ennemi mortel. Il ne bouge pas une seconde fois, celui sur qui je pose mon œil jaune ou mon pouce emphatique. Bien qu'il soit possible que je lui survive, il doit vivre plus longtemps que moi, car je n'ai que le pouvoir de tuer sans avoir le pouvoir de mourir.
Donc ça, c'est le poème d'Emily Dickinson. Et maintenant, qu'en fait Suzanne Oh ?
Alors, qu'en fait Suzanne ? Alors, ça, c'est très compliqué, parce que là, si je commence là-dessus, je dois lire quasiment tout le livre. Ce qui est intéressant, un bête exemple dans ce poème, on a entendu le mot « lui » qui désigne l'homme, lui, mais qui désigne aussi la lueur. Je comprends tout à fait que Suzanne Oh, qui voulait appeler son livre « mon » Emily Dickinson, et utiliser un poème dans lequel est utilisé le mot « lui », qui veut dire beaucoup de choses, à la fois sur la domination féminine, sur la domination masculine, la domination des femmes par les hommes, et justement, la manière d'en sortir, c'est peut-être justement de lire différemment Emily Dickinson, de se l'approprier par ce mot, pour contrebalancer justement ce que celui-là a fait de l'histoire. Voilà, mais il y a énormément de références qu'elle détaille de manière extrêmement précise dans son livre et qui est très, très beau. C'est très, très beau à lire. Il y a des envolées absolument somptueuses dans ce livre qui méritent vraiment, vraiment une très grande attention.
Vous savez quelle question je vais vous poser déjà ?
À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse de toute façon à tous ceux qui s'intéressent à Emily Dickinson. C'est un livre absolument essentiel, ça c'est certain. Ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la poésie. Et aussi, alors là, et de manière peut-être un peu plus étrange, ça s'intéresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux historiens. Parce que le travail de Suzanne Oh est aussi un fabuleux travail d'historienne. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Non seulement dans ce livre-là, mais aussi dans d'autres livres, dont un, je l'espère, sera traduit un jour, qui s'appelle « The Birthmark », donc c'est la marque de naissance, et qui s'intéresse à la naissance de la littérature américaine. Et dans ce livre, en détaillant aussi ce truc extrêmement pointu, hein, de critique littéraire, la naissance de la littérature américaine, eh bien, ce qu'elle montre, c'est la naissance, finalement, de la nation américaine et les mécanismes de domination et les mécanismes d'esclavage aussi sur lesquels la nation américaine s'est fondée. Et tout ça de manière extrêmement simple, extrêmement subtile et pas du tout revendicatrice, tous les deux bras dressés. C'est, voilà, donc ça s'intéresse, je dirais, un peu à tous ces publics. Mais c'est vrai que je dirais un public peut-être un peu averti, mais c'est pas si compliqué que ça, croyez-moi.
Mon Emily Dickinson de Susan O aux éditions Ypsilon. Merci Emmanuel.
Merci Elle.